bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez avec Leïla Cadeau,
bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Leïla.
Albert.
Bonjour. Bonjour.
Alexis Le Rossignol.
Bonjour.
Tout à l'heure, il y aura Tom Du Pasturon.
Bonjour.
Bonjour.
Et nos invités, Marie-Josée Croze et Barbara Schulz.
Bravo.
Bravo.
Bonjour les jolies comédiennes que voilà, on est ravis de vous accueillir. J'ai pas l'habitude avec Morin, Albert, ça me...
Ah, j'ai eu peur, j'ai cru.
Si elles sont jolies, le matin aussi.
Heureusement qu'elle est là. Le 30 janvier prochain, donc vous serez à l'affiche de À cause des filles, le nouveau film de Pascal Thomas. Film collégial, si on...
Choral,
voilà, si on doit citer tous les comédiens, ça va prendre du temps et je vais y aller. José Garcia, Rosie de Palma, François Morel, Pierre Richard, Audrey Fleurot, Laurent Lucas, Louis Do de Lynxin, Marie-Agnès Gillot, Bernard Ménez, Irène Jacob, Frédéric Becbédé, mais en silence, je vous rassure, Caroline Ducé et nos invités, donc Barbara Schulz, Marie-Josée Croze, et encore, j'ai pas cité tout le monde, autour du mariage, d'un mariage raté, ce sont les premières scènes, et les digressions autour de l'amour et des souvenirs que les uns et les autres ont de rencontres amoureuses ou d'histoires d'amour. Mais d'abord, des questions concernant donc nos invités. Bah, on va commencer par Barbara, elle a vécu son enfance dans le sud-ouest, que signifie l'expression « c'est goustou » ?
Ça a du goût.
C'est bon.
C'est bon.
C'est bon.
Alors c'est oui.
C'est
alors,
délicieux.
C'est bon, oui. Et il y a un autre truc. Il y a une autre nuance.
C'est bon, ça fait du bien.
Ça donne envie d'y revenir.
C'est roboratif.
Non.
Ça donne de l'énergie.
Ça tient au corps, non.
C'est gras.
C'est bon. C'est non.
C'est généreux.
C'est bon au manger et au vomi.
Alors ça c'est la banane, ça. Non.
Ouais.
Non,
c'est fortement bon, alcoolisé.
C'est goustou, c'est
bon,
c'est nourrissant,
c'est bon, il y a quelque chose qui fait du bien psychologiquement.
Oui. Ah, c'est réconfortant, quoi.
Exactement.
Bah,
c'est
oui.
Bon et rassurant.
C'est ça que j'avais en tête.
Ben c'est oui, ça, Barbara.
Je jouais pas,
en fait, comme c'est toi, je me disais, merde, ça veut dire quoi déjà? Non, parce que c'est un mot pour moi, c'est comme
ça
la baleine de Proust, quoi. Ouais. Quand je goûte un truc qui vient de là-bas ou même qui vient pas de là-bas.
Du Béarn.
Du Béarn, ouais. Et moi, je ratisse large, ça va des Charentes jusqu'à la frontière espagnole.
On m'a dit, vous ratissez large, mais. Et donc,
goût. Quelle élégance.
Géographie.
Vraiment, c'est.
Moi aussi.
D'accord.
Surtout la Charente.
Oui, c'est quelque chose qui me rappelle mon enfance, voilà. J'avais une meilleure amie qui avait une mère extraordinaire, qui avait un potager, qui jardinait avec les ongles faits, elle remettait un peigne, elle avait une robe de travers, elle était hyper chic, en même temps elle faisait un pot-au-feu, elle tuait le canard et elle pouvait me faire n'importe
pot-au-feu
quoi. Je mangeais des rillettes au petit-déj, du camembert avec du tétine fumé, elle nous faisait c'était merveilleux. Et tout ça, c'est goustou, quoi.
Alors,
ça explique beaucoup de choses.
Qu'est-ce que Marie-Josée Croze a changé dans sa vie depuis la mort de son chien il y a 8 ans?
Elle mange plus de viande.
Exactement.
Voilà. Je suis végétarienne, mais je mange du poisson, donc je suis une fausse végétarienne.
Flexitarienne, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Mais c'est le décès de votre chien qui a changé votre manière de voir la nourriture.
Vous l'aviez bouffé?
Il était si mauvais que
non,
ça.
Non, mais je l'ai eu.
J'ai eu des remords.
Non, c'était mon meilleur ami, je vivais avec lui depuis 18 ans et demi.
Ah ouais.
Et en fait, à la fin de sa vie, les 4 ou 5 dernières années, il était vieux, il se faisait vieux, on habitait un 4e étage. Je devais le porter dans mes bras pour l'amener dehors, parce qu'il était très, très mal en point. Et du coup, ce contact avec l'animal, les os, les petits os, ça me rappelait les côtes de bœuf et ces choses-là. Et donc, je me suis dit, plus jamais je mangerai de viande. Et c'est passé par un dégoût de la viande. Je trouve ça schizophrénique d'aimer les animaux comme ses amis, près de les bouffer. Je ne comprends pas l'idée.
Ah bah, y en a qui disent, je les aime tellement que je les mange.
Bien sûr, vous mangeriez votre enfant, peut-être. Non, on ne mange pas ses enfants.
Bien assaisonné.
On a eu des cas dans la mythologie. Ah,
c'est vrai.
Quel grand rôle pour Barbara Schulz, quel grand rôle lui est passé sous le nez?
Indiana Jones.
Paquet. Amélie Poulain.
Oui, exactement.
Ouais, je vous vois dans Amélie Poulain, en fait.
Passé sous le nez, enfin.
Non, si. Vous deviez rencontrer.
Oui, voilà.
Ah oui,
le jour où...
Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là?
Eh bien, il a rencontré Audrey Tautou, voilà. Mais c'était pour elle.
C'était...
Voilà.
Mais j'aime bien l'idée de si c'est elle qui l'a fait, c'est qu'elle devait le faire. Il y a un côté destin. Il y a un côté destin, oui, voilà. Il y a des rencontres qui se font.
Mm-hmm.
Mais de se dire, si le rendez-vous avait été calé un jour avant, le matin et pas l'après, ma vie aurait pu changer. Est-ce que vous pensez à ça ou il y a une espèce de fatalité?
Non, parce qu'il y en a eu tellement que j'ai pas eu. Non, mais. Et puis d'autres que j'ai eu.
Et que vous regrettez aussi.
Et que je regrette. Et je me dis, ah, celui-là.
Mais non, ça arrive souvent. Hein.
Avec l'âge, on devient sage et on se dit c'est ma route, quoi. Ouais. Voilà.
Est-ce que vous avez refusé des rôles? Vous n'avez pas voulu et vous l'avez regretté. Je pense à ça, pardon, oui. Parce qu'il y a une comédienne, c'est Valérie Caprisky, qui a refusé L'été meurtrier, oui. Simplement parce qu'il y avait une scène seins nus et qu'elle venait de faire L'année des méduses et elle ne voulait pas faire, entre guillemets, deux films seins nus.
Comment ça va, froid.
Voilà, c'est ça.
C'est l'autre acteur aussi, comment il s'appelle? C'est Bert Reynolds, non? Qui a tout refusé, lui. Celui qui jouait dans.
Ah, il a refusé L'été meurtrier, oui.
Non, mais oui, c'est Bert Reynolds.
Il ne veut pas montrer ses seins, Bert.
C'est Alain Souchon.
C'est dans Délivrance, c'est lui, c'est ça.
Oui, c'est lui dans Délivrance.
Il a tout refusé, lui. Il a refusé. Les Indiana Jones et James Bond, les je sais pas
quoi. De toute façon, même Indiana Jones, ça devait être Tom Selleck, logiquement.
Wow. Ah oui, c'est vrai,
ça devait être Tom Selleck.
Ouais.
Ça c'était lui qui était casté.
Non, moi non.
Donc là, c'est quand même.
J'ai refusé un court-métrage.
Pas pareil quand, c'est... quand on refuse, quoi.
Non, non, mais le truc qui est drôle, c'est que j'ai fait plein de courts-métrages de mecs qui vous attirent à l'époque quand on est jeune actrice. Je vais faire le long après. Il n'y en a pas un qui a fait le long-métrage. Et il y en a un qui
vous
a refusé.
Qui vous a guiché.
C'était Christian Carion.
Ah oui, d'accord.
Ouais, j'ai eu du pif pour les courts-métrages, ouais. Mais non, j'étais malade, voilà. Non, non.
Marie-Josée Croz a des dons d'imitatrice, notamment une actrice qu'elle imite bien.
Audrey Tautou.
Non.
Jeanne Moreau.
Française?
Non, oui, française.
Fanny Ardant.
Fanny Ardant.
Non, oui.
Carole Bouquet.
Catherine Deneuve.
Catherine Deneuve.
Je ne saurais même pas dire.
Isabelle Huppert.
Ah ben, bah on verra si l'imitation fonctionne. Non, c'est dans Elle. Non, j'ai interviewé dans Elle. Vous avez dit. Je suis capable de l'imiter, mais à s'y méprendre. Mais ne dites rien pour l'instant.
Monica Bellucci.
Non, Monica. Non, non, non.
Elle a chanté.
Elle a chanté, oui.
Qui Berlin?
Annie Jaoui.
Elle a chanté.
Elle est vivante ou elle est morte?
Elle est en pleine forme et on l'embrasse.
On verra la carrière.
Je suis très mauvaise imitatrice. Je ne sais pas ce que c'est que cette histoire. À mon avis, c'est.
C'est bidon?
Non, oui, c'est bidon.
Ah, c'est peut-être Mélanie Laurent?
N'importe quoi.
Non, alors elle a chanté, elle a fait un duo. C'était un duo avec un monsieur qui s'appelait Arnold Turboust.
Quoi?
Ah, Zabou.
Exactement.
Non, mais je l'imite pas, c'est juste que je sais pas, j'ai pas où vous avez vu ça. Je crois que
je vous dis dans Elle.
Non, mais en vérité.
Mon imitation, ouais, je vous lis l'interview, mon imitation de Zabou Breitman est bluffante.
C'est quoi, je me lève le matin, je me prends pour elle. Quand je
l'imite, on croit qu'elle va surgir derrière vous.
Non, je sais pas qui a dit ça, c'est pas moi.
Et vous avez même dit, quand je pense à ces connards qui m'ont pas donné un Molière. C'est marqué, je le vois.
Et j'aimerais dîner avec Daniel Morin ce soir.
Oui, exactement.
Incroyable.
Non, mais il se trouve que quand on joue dans un film, moi en général, ce que je fais, c'est que j'imite un peu le réalisateur ou la réalisatrice de façon inconsciente. C'est-à-dire que il y a toujours dans les personnages qu'on joue, quand on a le rôle principal, généralement, on est un peu une extension du metteur en scène ou de la metteur en scène. Donc il y a un peu un mimétisme. On passe la journée avec la personne. Donc c'est possible que j'ai pu avoir une petite intonation à la Zabou à un moment donné. Je sais même pas pourquoi j'ai pu dire ça. Mais j'adore Zabou, mais en tout cas, je ne l'imite pas le matin, ni le soir. Et Pascal aussi, et Tony Gatliff aussi. Je me souviens que j'étais capable de l'imiter en faisant des blagues, en reprenant. Mais là, je ne saurais pas le faire.
Ah ouais, la voix de Tony Gatliff, je serais curieux de vous entendre faire la voix de Tony Gatliff.
Mais je le faisais à l'époque quand je tournais avec lui, mais là, j'ai oublié.
Donc c'est une imitation immédiate, quoi.
C'est tout à fait immédiat.
Très bien. Oui. En juin 2015, Barbara Schulz est venue dans cette émission et nous a précisé avoir commencé à apprendre à jouer d'un instrument de musique.
Le ukulélé.
Banjo.
Exactement. Daniel Morin de la mémoire. Ukulélé. Vrai,
c'est
faux.
Exact.
Non, mais vous y êtes toujours?
Ah, j'y suis toujours.
Vous en jouez bien?
Alors, je me fais plaisir. Et parfois aux autres. Non, non, je sais, parce qu'en fait, j'aime bien chanter. Et
ça, je sais.
Voilà. Et du coup, oui. Et du coup, c'est chouette parce que du coup, on peut chanter, s'accompagner, voilà, avec quelques accords. Maintenant, je ne fais pas.
Mais
des...
vous faites ça seul, presque d'une manière timide, sans que personne ne vous écoute. Vous rencontrez avec des potes autour d'un.
Ah non, je suis assez désinhibée avec mon ukulélé. Je deviens un peu comme
Didier. Je suis désinhibée.
je trimballe, voilà. Mais sur les tournages, c'est chouette aussi quand on attend. Voilà.
Ouais, c'est léger, c'est pratique.
Oui, c'est petit.
C'est festif. Quel diplôme a Marie-Josée Croz?
100 mètres
de d'économie.
Infirmière.
Un diplôme, pas.
Eh ben alors, un master en économie.
Non.
Un BTS.
Dans les métiers de la santé?
Alors non, c'est dans. Oui, alors il y a plutôt le côté pratique.
CAP couture.
Pas loin.
CAP boucherie.
Alors. Cuisinerie. Cuisine.
Secouriste.
Secourisme.
Non.
CUP chaudronnerie.
Non, non, non. Alors vous avez dit quoi? Secourisme.
Infirmière.
Couture. Infirmière, non. Couture, non.
C'est dans le pratique.
Menuiserie.
Donne des indices.
Menuiserie.
La coiffeuse.
Mais ça ne se voit pas.
Non.
Déjà sur moi, j'applique mon savoir. Je me coiffe toujours très bien, non?
Mais c'est vrai que vous, c'était une monnaie d'échange avec vos copines? Vous les coiffiez et puis
oui,
elle vous donnait des cours de gym, des cours de yoga.
Non, je coupais les cheveux contre de l'argent dans la.
Ouais, ça s'appelle coiffeur.
Pour le moment, il y a
pas de mystère.
Je faisais ça dans la cour d'école en fait.
Ah ouais.
Alors là, ouais, j'avais fait ça avant d'avoir les cours même. C'était quelque chose
avant
un talent
de savoir.
Que j'avais.
Ah oui, vous aimiez couper
les cheveux, voilà.
C'est dans le film de Truffaut là, l'argent de poche, c'est ça. Oui. Le petit il va chez le coiffeur et son pote lui dit viens donne-moi le pognon, je vais te le faire et il le massacre.
C'était Marie-Josée Croix.
Mais je faisais plein de choses. Je peignais des clôtures aussi.
Des clôtures.
Oui, j'aimais beaucoup gagner de l'argent quand j'étais enfant. Je faisais ça. Je faisais tout ce que je savais faire en fait. Je le monnayais quoi.
À cause des filles. Donc ce film de Pascal Thomas. Avec vous, mesdemoiselles, raconte l'histoire d'une noce ratée. C'est vraiment les premières images. C'est extrêmement drôle parce que c'est dramatique ce que vit la mariée en l'occurrence.
C'est très drôle.
C'est-à-dire que Frédéric Becbédé et le jeune marié et à la sortie de l'église se trouve une jeune demoiselle dans une voiture cabriolet. On se dit bon c'est la voiture des mariés.
Voiture des mariés puisqu'il y a
et les casseroles.
Les casseroles. Ils vont s'enfuir avec un salut à la noce et donc. Donc à ce moment-là, tout le monde sort de la mairie, la photo est faite avec la famille, les amis et compagnie. Et Frédéric Becbédé, donc le jeune marié, s'enfuit avec cette demoiselle à bord du cabriolet. Tout le monde pense à une vanne, à une blague.
Il cale.
Et non.
La voiture cale. Ça, c'est encore plus drôle.
Mais il quitte sa femme juste après s'être marié. Et de là part le film, c'est-à-dire que tous les invités ne comprennent pas ce qui se passe, se retrouvent donc quand même à la fête de mariage. Il n'y a pas de raison, les musiciens sont là, il y a de quoi boire, il y a de quoi manger, on y va, on fait la fête en terrasse. Et chacun se confie sur des histoires d'amour passé, des aventures sur l'inconstance, l'infidélité, l'amour insaisissable.
Mm-hmm. Marie-José. Toutes les histoires qui ont failli arriver, ouais.
Oui, non, c'est très bien raconté. Hein. Je vois le film.
Il n'y a rien à dire.
Non, il faut aller le voir quand même.
Pourquoi aller le voir maintenant,
envie, tout, quoi.
La première, Barbara, c'est vous qui racontez une histoire dingue qui concerne José Garcia qui va l'interpréter, puisque c'est fait de flashbacks comme ça, et donc on voit ce que les invités de la noce racontent.
Ouais. Et donc oui, la première, c'est José Garcia qui a une déconvenue. Il a beaucoup d'enfants.
Trois,
et il va se rendre compte, mais je peux pas tout dévoiler.
Non, mais c'est ça. Mais
voilà, mais
en fait,
il va, bon, voilà, tu ne sont pas tous de lui, je n'ai rien dit. Voilà.
Le point de départ est dingue. Il accompagne une femme enceinte qui va accoucher, il l'accompagne à la maternité. Mm-hmm. Il est le seul à l'accompagner, visiblement, personne ne s'occupe vraiment d'elle. Et il est tellement généreux, attachant et dans le partage qu'il lui laisse sa carte de visite en disant appelez-moi, dites-moi si l'accouchement s'est bien passé, dites-moi si c'est un garçon ou si c'est une fille. Et il s'en va.
Mmh. Et là, on n'en dit pas plus.
Ah bon, carrément.
D'accord. Je pense qu'il faut s'arrêter.
Ok, très bien. Moi, alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, moi, je peux juste vous dire que.
Il y a une très belle lumière.
Pascal Thomas, enfin, pour ceux qui le connaissent et qui l'aiment, celui qui a fait Les Maris, le Femme, les Amants, moi, j'ai eu la chance de faire La Dilettante avec lui. Wow. C'est un metteur en scène comme on n'en fait plus, c'est-à-dire qui allie à la fois. Fantaisie, intelligence, c'est-à-dire qu'il fait du cinéma léger, divertissant, mais intelligent. C'est quelqu'un de brillant. Et travailler avec lui, je peux vous dire, mais là vraiment, c'était quelque chose de, c'est rare quoi. C'est un peu, en fait, il est drôle comme Mocky peut l'être sur un plateau, sauf que il gueule moins.
on est moins largué, si je peux me permettre.
Non, voilà l'histoire. Il y a une belle histoire et il aime les acteurs, il aime les situations complètement folles. C'est très poétique et en même temps.
Et il y a beaucoup de philosophie, c'est-à-dire
Oui, c'est très profond.
Il ne fait pas des leçons de morale, mais il donne des indices pour réfléchir.
Oui, exactement.
Et c'est loufoque aussi parfois.
Mais oui.
Oui, c'est poétique, c'est complètement décalé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de goût aussi. C'est une personne très raffinée. Donc c'est une espèce de mélange entre la farce et le raffinement et la philosophie. C'est assez. Moi, je suis arrivée sur le projet. Barbara a beaucoup plus tourné que moi. Moi, j'ai tourné que 3 jours et c'était vraiment une parenthèse. Je crois même que c'était quelqu'un d'autre qui devait faire le rôle parce que moi, je suis arrivée en cours de tournage. Et donc, je suis arrivée un tout petit peu. J'avais lu ma scène, mais j'ai dit oui sur le mec, quoi, sur la personne qu'il est.
C'est gênant de prendre un projet comme ça en cours de route ?
Non, c'est pas gênant, pas du tout. Ça n'a pas d'importance en fait. Ce qui est important, c'est le travail qu'on va faire et que, en fait, avec Pascal, moi, c'était très écrit ce que j'avais à jouer parce que je suis une institutrice. je suis en train de travailler
ouais, enfin, prof de français.
Prof de français, théâtre, on travaille le Tartuffe de Molière. Et donc moi, c'était très écrit, mais malgré tout, chaque jour, il arrivait avec... chaque jour, il y en avait trois, mais je veux dire, à chaque fois, il arrivait avec des... Pendant toute la journée, il changeait des choses, il rajoutait, il disait, mais là, tu vas dire ça, puis... voilà, c'est... Il faut être vraiment réveillé, il faut être dans un état d'éveil absolu, il faut être souple, il faut être très souple avec lui et tout accepter, lui faire confiance.
Quel est pour vous son regard sur l'amour, Barbara Schultz ?
De Pascal Thomas ?
Ouais. Pour lui, c'est quoi ? C'est de l'inconstance ?
C'est quelqu'un d'abord qui a beaucoup d'expérience.
Il n'y a pas d'amour.
C'est
pas d'amour.
On dirait ça comme ça.
Il n'y a pas d'amour heureux.
Il sait de quoi il parle.
C'est un grand amoureux. Il n'y a pas d'amour heureux. Écoutez, moi personnellement... Il y a des jours avec, il y a des jours sans.
Non, mais quand on voit le film, on se demande.
Vous avez besoin de parler, vous, Barbara.
On se demande, oui.
Vous avez besoin de parler.
Non, mais.
Si.
Non, je crois que c'est quelqu'un qui y croit toujours. C'est un éternel adolescent.
Qu'est-ce que vous avez saisi du personnage que vous interprétez, d'une professeure de français qui provoque, entre guillemets, ses élèves, voilà.
Sans vraiment le savoir, en fait. Elle est un peu inconsciente dans tout ça, je crois.
Un petit côté baba cool, on va dire. Exactement. Avec limite, on se tutoie entre prof et élève, tellement voilà. on est proche.
Ouais, voilà. Un peu moderne, moi, je vais faire différent des autres. Moi, je vais porter des tenues un peu provocantes.
Ça s'appelle une mini-jupe.
Et ça s'appelle une mini-jupe. Et c'est quelqu'un, en fait, moi, j'ai vu que c'était une... quelque part comme une grande gueule, comme quelqu'un qui dit des choses et qui finalement n'a pas...
N'assume pas ce qui se passe ensuite.
Pas tant que ça, pas autant qu'elle le prétend. Donc ça rejoint tous les thèmes du film sur le côté Tartuffe, le côté où les gens ne sont peut-être pas ce qu'ils prétendent être.
Il y a une scène que l'on peut raconter qui peut-être explique tout dans le film, c'est la scène des deux enfants qui s'échangent.
Oh là, un petit garçon. C'est un peu loin là.
Ouais, si,
on peut
le dire.
Non.
Pas tout.
Le quiproquo et l'ambiguïté commencent déjà là.
Vas-y, raconte.
C'est un petit garçon et une petite fille qui, n'osant pas se parler, écrivent un message.
Chacun écrit un mot à l'autre.
Un mot à l'autre.
Il écrit ce à quoi il pense. Et c'est là où on est déçu de savoir à quoi pensent les garçons en général.
Et donc, la petite fille, elle ouvre son cœur. Elle dit que ce garçon lui plaît. Enfin, elle dit qu'elle l'aime. Et puis lui, alors soit par timidité, soit parce qu'il s'en fout, il écrit qu'il va passer, je crois, en cinquième.
Est-ce qu'il les espère.
Il espère passer en cinquième. Et la déception de la petite fille qui part en courant le long de la plage.
Et la phrase.
C'est très drôle et très émouvant en même temps.
Exactement, ouais. C'est très touchant. Et la phrase de la petite fille, pardon, j'ai pas le mot à mot, mais globalement, c'était j'étais tout le temps muette. Et dès que je me mets à parler, ouais. C'est une déception, c'est une trahison et elle en est triste. Et cette notion de dire... Faut-il ou pas se déclarer ? Faut-il ou pas garder le silence ? Et puis la lecture Vénus et Mars, la lecture garçon-fille. Je trouve que dans cette scène-là, il y a un peu le
ce qui transpire sur le.
Et puis ça résume aussi l'esprit de Pascal Thomas, son cinéma qui est à la fois
poétique
drôle, poétique, fantasque, et qui touche à des choses très profondes tout en étant sans pathos. Quoi.
Ça sort mercredi prochain, le 30 janvier.
Vachement bien dit, elle.
J'ai bien parlé.
À cause des filles. Bon, hein. Justement, tu.
Il y a des fuites, mais.
On a reconnu
il y a des
la
fuites,
voix
mais des
de
Jean-Jacques
Lang.
Oh, Jean-Jacques. Gigi.
Merci, les amis. Tout d'abord, salut les filles.
Salut.
Et salut la bande originale. Tout concourt, en effet, Nagui, je vous le dis incontinent. Tout concourt au succès de ce film très drôle, dont vous avez, avec la concision remarquable qui vous caractérise...
Circoncision.
N'arrête pas. Trop d'infos.
Souligner les qualités. À commencer par le casting dinguissime, et je vous félicite en effet de recevoir aujourd'hui les plus beaux fleurons, Marie-Josée Croze et Barbara Schultz, qui se montrent dans cette version arcachonnaise des égarements du cœur et de l'esprit, mais aussi du corps, plus que jamais pétillantes, détonnantes, rayonnantes, truculente, irrévérente.
Oui.
Oui, quand je complimente, je peux pas m'en empêcher. Pour ma part, étant comme mon cousin Jack, follement dépris de coiffure, rappelle l'adresse, Zouzou Coiffure, mais aussi de culture, c'est l'amour que vos personnages portent à la littérature qui m'a emballé. Mmh. Chère Barbara Schultz, prendre un amant dont le corps est entièrement tatoué,
c'est génial,
à la gloire de Baudelaire, jusque sur le zgeg. Mais si, c'est ça.
On avait dit qu'on ne dirait pas
jusqu'au bout. Le nom du poète d'harmonie du soir. Voici venu les temps vibrant sur sa tige. Vous voyez un peu l'allusion, c'est le poème de Baudelaire.
Oui, oui, on a compris.
Il est fort, ce Pascal Thomas. Ce tatouage, donc, j'en dirai pas plus, quelle trouvaille. Et vous, chère Marie-Josée Croze, en prof de lettres faussement libérée, plus tartuffe que le tartuffe qu'elle fait jouer un de ses élèves incité à... Mais je n'en dirai pas plus. On m'a dit en régie. Notre camarade JNB m'a dit, mais non, ne dis pas ce qui se passe. En tout cas, quel renversement dialectique de la problématique moliresque. Alors, je sais, ce que je viens de dire n'a guère de sens, mais c'est tapé. Alors, il y en a un autre qui s'est fait taper salement, c'est JNB, notre rédac-chef. Juste avant l'émission, alors que Nagui lui demandait de quel film il allait être question, JNB lui ayant répondu, un consnifi, un film choral, oh mon bon maître. Nagui s'est écrié tout en tordant le bras de JNB. Mais combien de fois faudra que je te dise que depuis Les Choristes, je déteste les comédies musicales au cinéma. Mais, oh mon patron vénéré, un film choral, c'est un film avec plusieurs personnages principaux, hein, d'importance relativement égale. Ah, tu veux dire un film de copines qui acceptent d'être à égalité, mais qui en fait se jalousent toutes. Ok, j'ai pigé. Fais entrer la Croze et la Schulz et file-moi tes fiches. Voilà, chère Marie-Josée Croze, chère Barbara Schulz, comment se prépare la bande originale dans la haine du chant polyphonique, l'amour de la violence et le goût de l'inculture crasse. Bonne émission quand même.
Merci, Albert Algouz.
La bande originale, Lady, sur France Inter.
J'ai rien dit vous le gâcher.
Écoutons un peu la musique qui vient régulièrement. Alors j'ai eu le tort un jour de dire à Barbara que ce film c'était un film à sketch. Je me suis fait engueuler.
Ah oui, ça ne m'a pas plu.
Oui, j'ai bien compris. Mais on va dire que la musique est une liaison aussi, puisqu'il y a un groupe qui joue tout le long de la fête.
Un groupe merveilleux.
Voilà, et qui chante aussi.
Je me souviens la première fois, c'était à deux pas de chez moi au fond des bois. Au fond des bois. C'était pas la première fois, je me souviens qu'elle a dit ça. Embrasse-moi, embrasse-moi. Elle s'est approchée doucement, moi j'ai pris tout mon élan et lentement. J'ai senti ses bras sur mon cou, sur ma bouche un drôle de goût. J'ai prié pour que tout s'arrête, soudain j'ai perdu.
Le titre est quand même à charge, j'ai envie de dire, à cause des filles. C'est comme si on montrait les filles comme étant les coupables des problèmes d'amour.
Ah, c'est à double sens.
C'est parce
non,
que
pas
Pascal
forcément.
Est d'une autre génération, il est encore resté là-dessus, je pense.
Toi, tu vois un double sens dans la cause des filles.
Ben oui, c'est pas la faute des filles, c'est à cause des filles.
Mais la cause.
Elle peut provoquer des choses magnifiques.
Ouais, c'est pas grâce, quoi.
Non, ça peut dire grâce à cause.
Oui,
oui, oui,
ouais, ça peut dire grâce.
C'est vrai, tout à fait. Ouais.
C'est vrai?
Grâce aux filles.
À cause ou grâce, oui, ça veut dire.
Moi, je vois,
oui,
je voyais un côté plus péjoratif dans le.
Ouais, à cause dans la vie, c'est négatif.
Ça en dit long.
À cause des garçons, c'est le pendant de la chanson aussi.
Ça a failli être à cause des filles et des garçons. Ouais. Il y a eu à un moment ce titre.
Mais à cause des filles et des garçons.
Des garçons. Ouais.
D'accord. Ben là,
ouais, trop
là, ouais. C'était trop long, je sais pas, mais je trouvais ça plus malin parce que c'était.
Nagui a du mal avec les nuances.
Chacun,
en fait.
Exactement,
c'est
exactement,
non, mais la
exactement. Et puis on va voir toi où t'en es. Tes nuances.
Ouais, c'est mort. Oh là 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 là. Oh, l'erreur de timing. Oh, t'es mort.
Boum.
Ah, ah là 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 là. Alexis, selon le dernier rapport, selon le dernier rapport de l'ONG Oxfam, les 26 personnes les plus riches du monde détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité.
Oui, Nagui, on entend souvent dire que les plus pauvres n'ont rien, mais c'est faux. La preuve, la moitié la plus pauvre de l'humanité est aussi riche que les 26 personnes les plus riches du monde. Donc, mine de rien, en mutualisant un peu, les pauvres, ils ont du pognon. Et le tout sans posséder aucune entreprise. Malin, les prolos. Alors bon, j'aurais pu finir cette chronique là-dessus, c'était carré.
Ouais, moi, ça aurait été classique.
Mais il y a un mais. L'année dernière, le même rapport affirmait que les 43 milliardaires les plus riches du monde posséder autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Alors que cette année, il suffit de prendre la fortune des 26 premiers milliardaires pour égaler les possessions des plus pauvres. Autrement dit, sur le dernier exercice, comme on dit dans la finance, le cours du riche a monté alors que le cours du pauvre a baissé. Mauvaise année pour ceux qui ont cru à une remontée des pauvres sur les marchés. C'est comme le bitcoin, il fallait investir plus tôt. Alors les gens crient au scandale en disant « Oui, les riches s'enrichissent sur le dos des plus pauvres, ils sont toujours plus riches, les écarts se creusent. » Moi, je suis pas économiste, mais à mon avis, le problème, c'est pas les riches, c'est les pauvres, parce qu'ils sont jaloux. Ils sont là à attendre sur les trottoirs, alors qu'il suffit de traverser la route pour trouver un job. À part en Inde, où c'est compliqué de traverser à cause des rickshaws et des vaches sacrées, les autres n'ont pas d'excuses. Qu'est-ce qu'on peut reprocher aux riches? De faire des montages financiers pour payer moins d'impôts? Et les gens qui dorment dans la rue, ils en paient des impôts, eux? Je veux dire, en France, On a toujours cette tendance à associer la richesse à la malhonnêteté ou à l'absence d'éthique, alors que l'éthique et la richesse ne sont pas incompatibles. Regardez Bernard Tapie, il a parfois été honnête. Et puis les riches, c'est quoi? Des gens qui ont des belles dents et qui savent s'entourer? Rien de plus. Les riches, ils ont des fiscalistes, des gens dont le métier est de voir les failles du système, d'inventer des combinaisons, de dissimuler, de feinter. Ces gars-là, c'est les Zidane de la finance. Le fisc contre-attaque, passement de jambes, roulette, passe en profondeur, but 1-0 pour les îles Caïmans. Alors que les pauvres, ils sont là dans leur entre-soi. Mais c'est en s'ouvrant aux autres qu'on s'améliore. Regardez les records d'audience de cette émission depuis que je suis arrivé. Et puis cette passion de vivre au jour le jour, c'est pas bon. Faudrait des fiscalistes de la pauvreté. Des gars qui diraient aux plus pauvres, fais-moi confiance, place 3 roupies sur le vendeur de canne à sucre. Cette semaine, il fait beau, ça va marcher, quoi. L'enrichissement personnel, c'est la finalité du capitalisme. Et le monde est capitaliste, parce qu'on vote pour des gens qui portent des programmes capitalistes. Alors de quoi on s'étonne, en fait? Moi, je suis pas un fou de vitesse, mais si tu me confies les clés d'une Ferrari en me disant « amuse-toi, j'ai fait le plein », je vais pas l'utiliser pour tracter une caravane. Je veux dire, moi, je les plains, les milliardaires. On parle d'eux à longueur de temps, on les espionne, on les compare, on fait des classements. Forcément, à un moment donné, ils se prennent au jeu. C'est comme le classement des animateurs préférés des Français. Ça doit quand même faire mal de se faire détrôner par un médecin. Alors certes, plus sympathique, mais tellement arriviste. C'est le côté pervers des classements. Écoutez, si les milliardaires ignoraient combien possèdent les autres milliardaires, peut-être qu'ils ralentiraient la machine et penseraient à autre chose qu'à leurs dividendes. Objectivement, gagner toujours plus d'argent, ça leur sert à rien. C'est juste de l'orgueil, c'est le jeu du qui a la plus grosse. Moi, j'y ai joué une fois avec des copains. Bon, ben, j'ai perdu. Mais si ce jour-là, j'avais eu un esprit de compétition supérieur à la honte ressentie, j'aurais rejoué. Et puis, cette suffisance de classe des journalistes qui donnent le nom des plus riches, mais pas celui des plus pauvres. Sous prétexte qu'ils sont 3 milliards et demi, on ne se donne pas la peine de les nommer. Alors, c'est du mépris, ça, messieurs. Ouais. Mais moi, je vais le faire. Pour les 3 premiers. En ordre décroissant, commençant par le plus pauvre du monde. Voilà. Alors, numéro 1, il a 63 ans, il est burundais. Il a fait sa pauvreté dans le recyclage d'un pneu de mobilette. C'est Pascal Firmin-Siboma. Le numéro 2, eh bien, c'est une femme. Comme quoi, la pauvreté n'exclut pas les femmes. Bien au contraire. Elle a 32 ans, elle était première l'année dernière. Mais depuis, elle a trouvé une clé de 12 sous un bus. Elle s'appelle Jeanne Fatou Kabira. Et le numéro 3, alors là c'est chaud parce que c'est un malgache. Il s'appelle Edgar Ravalomanarayana et il possède actuellement 2 bananes. Donc sa position est provisoire. Moi, ce rapport d'Oxfam, il me met mal à l'aise, si vous voulez. Est-ce que c'est un rapport qui dénonce la richesse des plus riches ou qui souligne la pauvreté des plus pauvres? C'est un peu comme si on me proposait de faire un test pour savoir si j'aurai un cancer plus tard. D'un côté, je me dis, c'est cool, je serai fixé, mais de l'autre, je me dis, merde, si j'ai un cancer dans 30 ans, est-ce que j'ai vraiment besoin de le savoir maintenant? En tout cas, les cancers, c'est encore la seule chose qui touche aussi bien les milliardaires que les plus pauvres. C'est triste de se raccrocher à ça, mais quand je vois les inégalités qu'il y a sur cette foutue planète, je me dis qu'in fine, on vit, on pleure, on rit et on meurt. Et c'est la seule chose qui me rassure.
Merci Alexis Lorosignol. France Inter,
Midi, la bande originale. Alexis Lorosignol qu'on retrouve au point virgule et c'est tous les dimanches.
Ou pas.
Mais si,
on n'est pas obligé d'en y aller.
Mais si, faut y aller juste pour la suite du classement.
Mais regarde comme il fait peur, voilà. Quoi, tu le vois.
T'es... Mais non, il est charmant.
Mais c'est mal éclairé le point virgule.
Personne de France Inter n'est jamais venu me voir.
Mais attends, on a dit qu'on venait te voir au point virgule après le scénarium. T'étais au scénarium, c'est toi qui as dit. Hein. C'est toi qui m'a dit, venez pas au scénarium.
C'est vrai.
Venez au point
virgule. Il fallait que ça sorte à un moment donné, il a eu envie de le dire.
Non, mais c'est injuste en plus.
Non, mais oui, mais souviens-toi au moins de ce que tu dis.
Non, mais de toute façon, c'est pas terrible. Donc.
La bande originale du film, il y a aussi ce genre de chanson que l'on entend. Les invités fredonnent d'autres titres.
La vie qui va toujours, vive la vie, vive l'amour.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets.
Vous trouvez que la place des femmes dans le film est bien présentée, est bien le portrait fait des femmes, Barbara Schulz, dans À cause des filles?
Vous me posez la question et je me la pose en même temps. Je me suis pas posé la question en fait.
Moi j'ai pas trouvé le film très tendre avec les femmes, mais écoutez oui. C'est pour ça que je l'ai vécu comme étant plus un reproche qu'autre chose.
Ah bon?
Oui, dans les...
Bah, c'est vrai qu'Irène Jacob, c'est cette maîtresse qui se rend compte qu'elle est face à un fou, en gros.
Ouais. Mais c'est l'homme qui a le mauvais rôle, quand même.
Ah oui. Bah,
non, mais en tout cas, elle est
digne.
Les hommes sont lâches un peu dans cette histoire.
Oui, mais elle est victime. L'homme est lâche, mais elle reste quand même celle qui a été foncé dans le panneau, quand même.
Bah, sur les hommes, le ton est donné dès le début. C'est la fuite de Bec Bédé.
Oui, quand même.
Et il laisse tomber sa toute jeune femme dans un désarroi. C'est d'une cruauté incroyable. Et ça donne le ton du.
Oui, mais mais la jeune femme en question attend encore qu'il revienne, monte en haut du phare. Enfin, je veux dire, il y a une part, elle est pas très fut-fut, quoi. Oui, c'est ça. Ouais.
Ah, elle reprend le dessus. Elle est désespérée. Au cours du film, petit à petit, scène après scène, on la voit qui se reprend.
Je parle du phare parce qu'il y a une légende qui dit que les femmes de marins, lorsque le marin était perdu en mer ou ne revenait pas, montaient en haut de ce phare, criaient, l'appelaient son nom.
Oui, mais elle ne crie plus son nom, in fine, tout en haut du phare.
Tu spoil. Ah, ok, tu divulgages.
Ah, oui, mais.
Oui, mais si on parle de
c'est vous qui nous poussez.
C'est vous qui nous poussez, Nagui.
Je parle de l'esprit global du.
Justement, donc l'esprit, il est plutôt féministe à ce moment-là.
J'ai pas trouvé ça comme étant une ode faite.
Mais moi qui n'ai pas vu le film, ça m'a pas choqué. Pas plus que ça, en tout cas.
Parlons des musiques, en tout cas, et des musiques qui ont marqué votre vie. Barbara Schulz, vous écoutiez dans fin des années 80.
Il faudrait voir Nagui danser.
Mais il fallait voir à l'époque, surtout, danser sur les kilos. Qui n'a pas dansé sur les kilos? Quelles images passent dans
Les Enfants du Rock avec mon père quand ça passait à la télé, on n'en loupait pas
une. Il faut dire que c'était le générique des Enfants du Rock.
Le générique des Enfants du Rock.
Ça, c'est l'instrumental. Et puis
voilà, le concert de Cure, Place de la République, je ne sais plus à quelle fête de la musique, une des premières.
C'est votre papa qui vous emmenait au concert?
Ah non, là, c'était mes petits copains. Enfin, mais j'en avais qu'un, puis c'est les copains de mon petit copain.
Mais il n'y a pas de mal, Barbara.
Il
n'y
a pas de mal.
Il n'y a pas de mal.
Et puis, oui, j'avais une paire de bad caves un peu à l'époque.
Ils reviennent au mois d'août, les Cure.
Mes petits copains. J'ai
non,
peur.
Ah, tous. Vous les assumez pas.
Pas tous.
À Rock en Seine.
C'est vrai.
Les Cure repassent au mois d'août.
Ça arrive. L'information, c'est génial. Cure en concert à Rock en Seine.
Vous bien en fauteuil roulant et
je t'envoie un texto comme ça.
Ça vieillit pas bien les rockers. J'ai regardé une photo d'Axel Rose parce que j'adorais aussi.
Lui, il a reçu, il a pris.
Voilà. Non, j'ai eu une période un peu bad cave. J'étais un peu gothique. Voilà.
Vous voyez votre tenue vestimentaire, ouais, ça ressemblait à quoi?
C'était soft. Je mettais pas le maquillage et tout, mais j'avais des docks et j'avais un grand manteau que j'avais acheté au plus, qui avait un grand col comme Bela Lugosi, là, voilà. Et on buvait des Cronenbourg sous les ponts
Vampirella, c'est ça?
Vampirella. Et j'écoutais Joy Division, Sister of Mercy, Siouxsie, tout ça.
Et c'était quoi votre regard sur la vie, sur vous? Vous projetiez.
C'était
quand
noir.
Vous étiez ado, vous dites, ouais.
C'était un peu. Oui,
non,
j'aimais.
C'était nos futurs?
Non, c'était pas nos futurs, mais c'est très idéaliste, c'était, voilà.
Bah, c'est pas noir, ça.
Non, mais idéaliste dans le sens 19e, vous voyez, un peu le romantique, gothique, voilà, c'était pas gay, quoi. C'était beau, mais c'était triste, quoi. Voilà.
Oui, je comprends parfaitement, j'étais comme elle, exactement la même chose.
On arrive, Marie-Jo, on arrive.
Non, mais je suis contente d'apprendre que
vous êtes pressée.
C'est une
carrière. Il faut vivre tout de suite, parce que de toute façon, on va mourir un jour.
C'est vrai que depuis le début, on parle beaucoup de Barbara et pas beaucoup de Marie-Jo.
Et le théâtre,
il y a une petite jalousie quand même.
C'est vrai que c'est disproportionné.
Non, pas du tout.
Vous êtes au cours Simon, vous, Barbara, à cette époque-là?
On continue.
Oui, voilà.
Vous n'arriverez pas à nous séparer.
Il faudrait mettre des temps de parole comme pendant les élections.
On continue avec Barbara. Quel a été le déclic pour vous dire je vais devenir comédienne? Je crois qu'il y a eu un casting aussi où on vous a repéré pendant vos cours de théâtre.
Oui, et puis ma mère a flippé, moi aussi. Je me suis dit non, je suis pas prête, je vais pas. Il n'y a pas vraiment eu de déclic. Moi, c'était je suis un peu diesel. Mm-hmm. Ça a mis longtemps.
Il y avait des pubs.
Oui, des petits déclics. Voilà.
Ouais. La pub pour chewing-gum, tout ça, ça a été des.
Oui, mais je pensais pas. Pour moi, c'était
moments
vraiment.
Moments de gloire. J'imagine. Oui. Non, mais ado, jeune comédienne, se retrouver pour faire la pub, non?
Non, parce que pour moi, actrice, c'était un métier. Je me souviens quand j'étais au cours Simon, justement, il y avait une phrase de René Simon au mur où il y avait marqué il n'y a pas de plus grande malhonnêteté que de faire un métier que l'on ne connaît pas. Et c'était resté comme un truc. Ouais. Comme ça. Et du coup.
Ce qui marche pour tous les métiers.
Ouais. Et ce qui marche pour tous les métiers. Et je faisais des babysitting, je faisais des petits jobs où j'étais pas très bien payée. Et tout d'un coup, je fais des pubs. Là. Tout d'un coup, des gros chèques qui tombent. Donc j'arrête de faire des babysitting et des petits jobs pourris. Et du coup, Mais je continue à être... Pour moi, c'était pas la voie pour être actrice. C'était juste un moyen de... Et il se trouve que c'est par cette voie-là que j'ai rencontré Pascal Thomas, que j'ai eu un agent. C'est mais c'était le hasard, quoi.
Oui, de gagner de l'argent. Il faut préciser qu'à l'époque...
Ouais. On était en francs, à l'époque. Ouais.
Non, j'allais dire, je crois savoir que les pubs étaient beaucoup mieux payées qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles étaient pratiquement payées à la diffusion et il y avait des droits,
Y
avait des droits d'image.
C'était très, très intéressant. Or,
les publicitaires ont compris ensuite qu'il fallait revoir les contrats pour les comédiennes et les comédiens différemment avec « c'est un forfait » et puis on fera ce qu'on veut, on diffusera la pub autant d'années que l'on veut et vous n'avez rien à dire.
Mais à l'époque, ouais.
Et ça a totalement changé le marché. Mais à l'époque, c'était fou.
C'était fou. Enfin, à mon âge, j'avais 19 ans, ça m'a permis d'être indépendante très, très vite.
De continuer à faire des études aussi.
De continuer à faire des études, de l'économie, je ne sais pas pourquoi j'ai
fait
ça.
Vous avez fait la pub Barbara Gould ? Non, c'est pas vous ?
Non, c'est pas moi. Pensais.
Tu sors. Marie-Josée, vous écoutiez-vous à l'époque ?
Oui, c'est moi, Don Quixote, seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quixote, sans peur.
Ah, vous connaissez par cœur.
Ah oui, par cœur.
Là, c'est l'homme de la Mancha. C'est, d'abord, c'est le texte, l'interprétation, Jacques tout, Brel, qui est à la fois comédien, chanteur. Qu'est-ce que vous aimez ?
Tout, mais j'ai tout découvert là, parce que je viens pas d'un milieu artistique du tout. Chez moi, c'est vraiment des prolos. Et en fait, je travaillais dans un resto à côté du Conservatoire d'art dramatique.
On est au Québec, hein ?
On est au Québec. Donc, il y avait tous les comédiens qui venaient et prendre des cafés chez moi, dans mon café. J'étais très jeune, hein, j'avais 19 ans. Et donc, eux m'ont fait découvrir cette Jacques Brel et puis la chanson française. Et en fait, c'est ce qui m'a donné envie de faire du théâtre. Et surtout Jacques Brel, parce qu'il est, c'est le théâtre lui-même, quoi.
J'imagine que une jolie serveuse comme vous au Québec, 18, 19 ans, avec
le même âge que les gens que
avec des comédiens, avec des comédiens qui viennent, oui. Il doit y avoir après des comédiens qui se mettent à vous draguer et ainsi de suite. Est-ce que aussi par drague ou par amour, vous êtes dit je vais les suivre dans le cours de...
Non, il me draguait pas du tout, mais je veux dire, j'étais
l'esprit
passionnée.
Mal placé, lui. Il va dans un resto, il drague forcément c'est la serveuse.
Non, mais j'étais surtout, j'étais passionnée par eux. Je les voyais en groupe, ils arrivaient du conservatoire, ils répétaient leur texte ensemble.
Vous aviez envie de faire partie.
J'avais envie de faire partie, et j'étais presque leur amie, quoi. Je venais. Je m'asseyais avec eux et tout, on parlait. Et il y a un gars, à l'époque, c'était des cassettes. Et il y a un gars qui est arrivé avec cette cassette, quoi, de Jacques Brel. Et j'ai halluciné. Et ensuite, j'ai commencé à aller voir des pièces et j'ai commencé à lire du théâtre. Et c'est comme ça que mon intérêt pour le jeu a commencé, quoi.
Et avant ça, vous avez été un peu une globe-trotteur.
Oui. Bah avant ça, je me promenais, je travaillais chez McDo, je gagnais un peu d'argent, je partais, je me baladais, je venais beaucoup en Europe, en France, surtout en France d'ailleurs.
Qu'est-ce que vous faisiez ?
Bah je me promenais avec un sac à dos, je prenais des trains et je rencontrais des gens et je dormais dans les gares, je dormais dans les auberges de jeunesse et
sans but comme ça.
Sans aucun but, non, juste peut-être mon but c'était de rencontrer des gens et puis de tester un peu la comment dire l'entraide et tout ça, c'était des choses qui me passionnaient, de rencontrer des gens que je connaissais pas, de leur parler, puis finalement de devenir amie avec eux et puis après je rentrais
au Québec. Il y a eu que du bon dans ces périodes-là.
Si, c'était que j'ai pas eu de drame.
Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais il y a des moments.
Non, mais j'aurais pu sur la route.
Dommage, des anecdotes. Parce que ça, c'est vendeur, le drame. Là, pour l'instant, tout ce bonheur, là, on perd des auditeurs.
Je pensais pas. Je
fais des pouillés une fois, casser la gueule.
Non, mais j'ai connu des gens qui s'arrivaient.
Inventé, vous êtes comédienne, allez-y.
Non, tout se passait bien. Et c'était marrant parce que je partais avec l'oreille pass, ça s'appelait. C'était un pass qui permettait de prendre autant de trains qu'on voulait. Et donc, je m'arrêtais dans des pays comme ça que je connaissais pas, et à l'époque il y avait dans chaque pays il fallait changer l'argent, et donc des fois j'arrivais à 1h du mat, j'avais pas d'argent, c'est pour ça que je dormais des fois dans les gares. Et il y a plein de gens qui m'ont aidé. Je me souviens de quand je suis arrivée à Paris par exemple la première fois, j'étais partie donc de Montréal avec le cuisinier avec lequel je bossais dans ce café où on écoutait Jacques Brel, et on a décidé un jour, on a dit on va en Europe, et lui il était français d'origine, et quand on est arrivé à Paris il a dit oh Marie je suis tellement fatiguée, tu sais quoi, j'ai de la famille en banlieue, moi je vais, viens on va dormir chez ma famille en banlieue. J'ai dit mais t'es dingue, dans une famille en banlieue, mais moi je vais pas en banlieue, il y a Paris là, on ouvre la porte, on est à la gare du Nord, on arrivait d'Amsterdam, et j'avais une carte, et il y a quelqu'un qui s'est arrêté en scooter, qui m'a dit qu'est-ce que vous cherchez madame, j'ai dit bah je sais pas, l'auberge de jeunesse, je sais pas où c'est, et le type il m'a dit montez là. Et je suis montée sur le scooter avec lui. Et le gars, je l'ai plus jamais revu. Hein. C'était pas pour me draguer ni rien.
Eh bien, il est là.
C'était...
il s'appelle Patrick.
Et c'était pareil en Italie, quand je suis arrivée à Rome au milieu de la nuit. C'est un militaire qui m'a aidée à trouver l'auberge de jeunesse, à Amsterdam aussi, partout. Je me suis... Les gens m'aidaient, les gens ils étaient très sympas. Et donc, ça m'a donné foi en l'humanité, parce que j'en avais pas... je venais pas d'un milieu qui me permettait de croire ça, quoi. J'avais eu une enfance très difficile, et donc c'était bien pour moi de voir que dehors, c'était possible, quoi.
Quand vous dites difficile, c'est en termes de confiance en l'autre ?
Ouais, j'aimais pas les gens, moi. Je leur faisais pas confiance.
Vous avez un point comme Akagi, là.
Vous êtes bien tombé, hein.
C'est-à-dire vous avez récupéré votre temps de parole. Plus. Vous avez rattrapé.
Ah, d'accord, merci. Ah, mais je suis très bavarde.
Excuse-moi, tu vas faire ça jusqu'à midi et demi.
Oui,
tu vas
compter.
C'est le justicier du temps de parole.
Exactement, oui. En 2003, Barbara Schulz, vous écoutiez. Là, cette musique, là, vous renvoie à quoi ? Des soirées entre potes,
mon une période précise. Petit appart dans le Marais, c'était mon voisin qui écoutait ça. Et
voilà.
Et j'ai entendu ça dans la cour, je fais « Ah, oh, c'est quoi ? C'est vachement bien !» Je le connaissais pas, j'ai dit « Qu'est-ce que vous écoutez ?» Il m'a dit « Beyoncé ». Je suis « Qui ?» Voilà. Et je jouais...
Le tapage diurne vous a fait découvrir Beyoncé, c'est cool.
Et je jouais Antigone.
Ouais. Voilà. Génial.
Donc ça me rappelle tout ça.
À Marigny, je vous avais adoré dans cette pièce.
Non, mais c'est le rôle que j'ai préféré.
Il y a même des cassettes vidéo qui circulent dans les centres pédagogiques.
Mais même, il y a plein d'élèves.
Qui... Bah oui, centres pédagogiques, il y en a partout des cassettes. Ouais. C'est la référence quand on étudie Antigone, vraiment.
C'est une adaptation de Robert Hossein, non, à l'époque ?
Alors, pas du tout. Il jouait crayon. Mais il a été extraordinaire, Robert Hossein.
Il était le patron du théâtre.
Il était le patron du théâtre. Il m'a appelé. Il m'a dit, je voudrais déjeuner avec vous. Il m'a dit, voilà, je voudrais que vous jouiez Antigone. Je ne veux pas le mettre en scène. Je veux juste le jouer. Alors, qui on va prendre comme metteur en scène ? Je lui dis, mais vous me le demandez ? Il me dit, bah oui. Je dis, bon. Et là, Nicolas Briançon, que je connaissais par Nicolas Vaude, qui était un copain. Oui. J'avais été voir une pièce 4 jours avant. Il avait trouvé très chouette ce metteur en scène et jeune. Et je lui dis, avec Robert, il faut mettre quelqu'un. Voilà.
Il faut quelqu'un qui l'emmène ailleurs.
Quoi.
Qui le pousse,
Je dis, vous connaissez Nicolas Brasson ? Il fait, bah non. Et il l'a rencontré, il lui dit, bah c'est toi. Voilà. Et hop.
Nicolas qui joue en ce moment le canard à l'orange.
Le canard à l'orange, ils ont commencé là cette semaine.
Et qui est en engrenage.
Et que nous recevrons bientôt pour parler de ce canard à l'orange.
En fait, à chaque fois que Barbara vient là, je pense à cette pièce parce que j'adore cette pièce. J'ai adoré la mise en scène de Nicolas Briançon parce qu'il y avait un petit côté aussi Matrix avec les hommes de crayon. Il y avait un truc hyper moderne
et en même temps épuré, mais en même temps profond.
Vraiment c'est un personnage merveilleux, Antigone. C'est cette dualité entre respecter la loi des hommes et la loi de la famille, quoi. En fait.
Ouais, et puis moi, c'est là que j'ai compris ce que ça voulait dire.
La pureté, la robe.
Ce que ça voulait dire d'être actrice, en fait. Et c'était Nicolas, il m'avait dit, mais tu ne peux pas avoir le trac pour cette pièce puisque tu irais contre le personnage. C'est quelqu'un qui impose qu'elle est, qui n'a pas peur de déplaire. Et du coup, je dis, mais tu as raison. Et du coup, j'avais un courage incroyable. Mais je suis à moitié devenue...
C'est un beau rôle pour une comédienne.
Ouais. C'était extraordinaire. Tout d'un coup, même les soirs où j'étais fatiguée, il se passait des trucs bizarres. C'est-à-dire, j'étais tout d'un coup, quand j'avais pas de courage, je repensais à, je sais pas, quel jeune résistant mort, non, personne ne se souvenait, ou je voyais jouer des... Et tout d'un coup, j'avais de moi une espèce de truc qui sortait comme ça. J'étais la voix de tous ces gens qui un jour avaient fait acte de courage et donc qu'on avait oublié, quoi. Et j'étais leur voix.
On a cité tout le monde sauf Jean Anouilh, quand même.
On a dû commencer par ça.
Ouais. Marie-Josée Grosz, vous écoutiez à ce moment-là, vous, en 2003.
I can settle down and be doing just fine. Till I hear an old freight rolling down
the line.
Then I heard. Et on vous retrouve, Marie-Josée, vous, en 2003, dans Les Invasions Barbares, ce qui vous vaut le prix d'interprétation à Cannes. Pour le rôle d'une femme un peu
junkie
en fait, vous ne pensiez même pas avoir un prix pour ce rôle-là. Dans votre CV, vous déclarez que vous mettiez que c'était un rôle secondaire.
Ouais. Mais oui, parce que j'avais tourné 10 ou 12 jours et j'avais... j'ai très peu de temps à l'image. Hein. Je crois que j'ai 10 minutes, quoi.
Ouais. Ouais. Je parlais du ouais. metteur en scène parce que quand même
Denis Arcand.
On se fait pas le malin toi là-bas.
Bah, c'est aussi le début d'une collaboration avec lui. Enfin, une envie, c'est quand même un metteur en scène hyper hyper respecté, hyper en vue. Donc j'imagine que aussi dans une carrière, c'est pas rien de passer.
Le point le plus fort de Denis Arcand, c'est qu'il écrit de très très beaux scénarios. Ouais. C'est parmi les plus beaux scénarios que j'ai lus. Et après, quand on tourne avec lui, c'est quelqu'un qui dirige pas. Et qui est prêt à tout le temps réécrire une scène si elle fonctionne pas. Et donc c'est une façon de travailler assez particulière. Et aussi il est très bon pour choisir les comédiens et les assembler et créer des familles un peu d'acteurs. Et moi j'ai refait un film avec lui après qui a moins bien marché évidemment que Les Invasions Barbares, mais je lui dois beaucoup parce que c'est vrai que c'était un rôle en or et c'est un rôle que même au scénario j'ai vu que il y avait un potentiel très fort dans ce personnage. Cette femme qui est junkie, c'est un déchet de la société, c'est une anti-héroïne et ça m'a beaucoup touchée quand j'ai lu le scénario et j'avais une envie folle de jouer ce rôle et j'y ai donné beaucoup de moi-même et je savais ce que je faisais quoi, c'est-à-dire que j'étais sur le plateau assez solide, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, on sait pas trop et on a alors besoin du metteur en scène pour être encouragé ou guidé. Et là, je n'avais pas besoin, j'étais autonome.
Une junkie anti-héroïne. Très belle.
Exactement,
van, très belle.
Pas
van.
Mal. Hein.
On va parler mariage avec Florence Maillochon. Merci Florence de venir à ce micro. Vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS. Vous avez écrit La passion du mariage en 2016 aux éditions Presse universitaire. De France. Le point de départ, ouais, puf. Le point de départ du film est un mariage où le marié s'en va et quitte son épouse. Ça n'existe que dans les films, ça?
Non, pas du tout.
Ça peut exister dans la vie.
Vous en connaissez, j'imagine, tous au moins un cas.
Le jour du mariage, non.
Si, moi j'en connais.
Qui disent non ou qui fuient.
Mon premier amoureux, j'ai appris que plus tard, des années plus tard, il a rencontré une fille qui avait presque le même nom que moi et il la laisse marier avec elle et il a fait venir sa famille d'Italie, la famille de cette fille du Portugal et il s'est barré le jour du mariage. Son frère me l'a dit.
Mais se barrer après avoir dit oui sur le perron.
Oui, j'en conviens, c'est extrêmement
ça,
rare.
Qui part avant.
Mais en tout cas, d'après les statistiques, on voit qu'il y a environ 100 personnes qui divorcent l'année de leur premier année de leur mariage.
Oui.
Donc bon,
c'est
pas forcément le jour du mariage.
Vous avez tous fait le cours Simon, et pas.
Quel est le pourcentage, pardon?
Le pourcentage, c'est pas un pourcentage, c'est de l'ordre de 4 pour 10 000, donc ça fait en gros 100
D'accord.
cas par an.
D'accord. Généralement, c'est l'homme qui fuit dans ce genre de situation?
Oui, en général, c'est plutôt l'homme pour une bonne raison, c'est que qui prépare et qui organise la fête du mariage, ce sont en général les femmes. Donc on peut imaginer qu'elles s'arrêtent avant d'avoir eu la charge mentale et la charge physique de faire toute cette organisation d'une belle fête.
Ce genre de fuite, c'est la pression mise par les familles, c'est...
La lucidité.
Comment ça s'explique?
Je sais pas quoi dire.
C'est parce que justement, le mariage a été... décidé sur un coup de tête et n'a pas été suffisamment réfléchi en amont?
Peut-être c'est difficile de faire des généralités sur des cas aussi rares, finalement. Mais en tout cas, il est vrai que la fête du mariage met beaucoup de pression en ce moment aux mariés, en fait. Au-delà même de l'engagement que le mariage signifie, bon, c'est une institution, c'est un acte juridique, c'est quand même grave, l'engagement qu'on prend pour se marier. Mais en plus, à l'heure actuelle, il y a vraiment une très très forte pression sur cette fête qui doit être parfaite. C'est-à-dire que le mariage, le jour du mariage n'est pas le plus beau jour de la vie, il doit. Il faut aussi, en particulier que les mariés et les jeunes, enfin que les femmes, fassent de ce jour le plus beau jour de leur vie. Donc ça met une pression énorme.
Moi je verrais plutôt comme une fête, comme vous le dites depuis le début, c'est-à-dire une fête que l'on partage avec ses amis, avec ses proches. Mais il est évident que quand on est marié, le seul souhait c'est que ça se passe bien pour les invités et pour la famille et que donc il y a une charge mentale partagé, je pense, pour que tout se passe bien et qu'on n'est pas en train de penser, on pense plus à une organisation qu'à une histoire d'amour.
Oui, qu'il n'y ait pas de scandale sur le plan de table, qu'il n'y ait pas de
scandale.
Qui est à côté de qui est-ce que l'oncle bourré qui va se mettre sur la table chanter?
Je ne suis pas venu à ton mariage avec
on fait quoi? On fait quoi? Mais j'ai tout fait pour. On fait quoi des enfants?
Oui, le principe, c'est de faire une fête, la plupart des gens. gens qui se marient le font aussi à l'heure actuelle pour faire une fête. Ouais. Mais on voit bien que ce n'est pas n'importe quelle fête. C'est pas une fête très simple. C'est au contraire une fête qui demande beaucoup d'organisation. Et même si les mariés partent avec l'idée de faire quelque chose de très simple, ils ont souvent cette idée de faire quelque chose de simple, avec peu de personnes, que les gens proches. Et finalement, progressivement, ils rencontrent un tas de problèmes, de complications qu'il faut programmer. Et c'est ça qui demande du temps, de l'argent aussi, beaucoup.
Ouais, ça coûte cher,
mais... Pas toujours, ouais, mais...
Il n'y a pas une tendance avec des formats de mariage un peu plus petits, où vraiment on
le
se
Pax.
Dit... Non, mais c'est-à-dire que pour éviter tous ces ennuis entre l'argent que ça coûte aussi, parce qu'il y a un moment, ça coûte quand même très très cher si on veut faire le mariage de ses rêves et être frustré parce qu'on n'a pas assez d'argent, ça aussi, ça peut poser des problèmes. Qui finance, les parents, nous, enfin.
Ce que l'État doit prendre.
C'est que social.
On est en train de remplir un débat national. C'est un truc à poser.
Moi, je vois fleurir des mariages comme ça où c'est vraiment les mariés, les témoins. Et les parents, et ça s'arrête là, en fait. Et on va au resto après, comme ça, on s'ennuie
pas.
Quand même. Non, mais tout simplement, en fait.
Alors, j'ai l'impression que le mariage simple va revenir, en fait, parce qu'on est arrivé à un tel...
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Quelques statistiques et une enquête que je suis en train de réaliser.
Citez vos sources, parce que là, c'est facile, comme ça.
Alors, l'INED.
N'écoutez pas, Florence.
L'enquête équipe épique de l'INED. Donc, sur les 30 dernières années, en quelque sorte, il y a vraiment une exacerbation de tout le décor pour la fête, du nombre d'invités aussi. Donc, les grandes fêtes se sont vraiment développées au fur et à mesure que les gens n'étaient plus obligés de se marier, finalement. Non obligés, ils faisaient des fêtes de plus en plus spectaculaire. Et là, on arrive à un tel niveau, en fait, de spectacle, en fait, que finalement, les gens reviennent, je pense, progressivement à des choses plus simples.
Vous parlez
donc,
beaucoup...
Je pense que c'est l'évolution des 20 prochaines années de revenir avec des mariages, finalement. Un peu comme dans le film, en fait, finalement. Ce mariage, il est relativement
on
sobre.
Retiendra que la fête et pas l'histoire d'amour. Parce que là, vous parlez beaucoup de fêtes et pas d'amour. On se marie pour faire la fête, on se marie pas pour sacraliser notre amour.
L'implicite est là, en fait. On n'a plus besoin de dire qu'on se marie par amour, parce que, de fait, tous les gens se marient par amour. Les gens se marient alors qu'ils vivent ensemble depuis...
Pour les impôts aussi.
Pour les impôts, oui, aussi. Non. Mais de moins en moins, parce que finalement, avec le Pax aussi, on peut faire une fiche commune.
Tu choisis ton partenaire, en tout cas.
Ouais, est-ce que le mariage est encore à la mode, entre guillemets, ou est-ce qu'il revient à la mode?
Est-ce que vous nous conseillez de nous marier?
T'es marié, toi, ou pas?
Non.
T'es pas marié?
Plus terminé.
Ah, plus marié. Albert, t'es marié ou pas?
Oui.
Marie-Josée?
Oh non.
Pardon. Barbara?
Moi, j'ai été mariée 2 fois, mais je suis plus mariée. Voilà.
On va s'arranger.
Non, non.
Tanguy, t'es marié, toi?
Non, du tout, non.
Non, du tout. Non.
Il aimerait bien, mais...
Donc, personne ne me demande, quoi. Genre,
mais parce que je sais que tu n'es pas marié.
Oui.
Donc, en fait, on n'est que deux mariés ici.
C'est prévu.
On n'est que deux mariés autour de la table.
Mais pas ensemble, chacun son côté.
Oui, chacun son côté.
C'est normal, on est dans le milieu des médias.
Des bobos. Elle a failli. T'as vu?
Non, j'aurais pas dit bobos, parce que les bobos, détrompez-vous, ils peuvent se marier.
Et ils dépensent du fric.
Parce qu'ils ont aussi de l'argent, les bobos.
Donc c'est une tendance.
C'est une tendance. Ah non, c'est pas du tout à la mode, le mariage. Au contraire. Le mariage, le nombre de mariages diminue depuis 1970. En 1970, 400 000 mariages. À l'heure actuelle, 230 000. Donc c'est pas du tout à la mode. Si on voit la tendance, le nombre de mariages diminue. Et si on rapporte à la population française, ça ne cesse de diminuer.
Ça consolide.
Et le Pax,
couple,
au contraire, augmente. C'est-à-dire que,
ça coûte moins
à
cher
l'heure
aussi.
Actuelle, il y a presque autant de Pax, 200 000 en 2018,
que de mariage.
Alors que de mariage.
228 000. C'est ça,
228.
Est-ce que ça consolide un couple?
Est-ce que ça consolide un couple?
Bonne question.
Quel couple?
Quand il y a un couple, est-ce que ça le consolide?
Mais qu'est-ce que c'est le couple en ce moment?
Qu'est-ce
que ça consolide? Le couple, un couple d'amoureux passionnés, un couple de parents attentifs à leur famille, d'adultes raisonnables, pétris d'habitude et de rancœur.
Un patrimoine.
Donc, c'est difficile de répondre. En tout cas, ce qu'on peut.
Vous n'êtes pas mariée, en tout cas.
Si, je suis mariée.
Ah bon, d'accord. Je sais pas, mais le portrait vous êtes du mariage, là, c'est.
Enfin, madame,
cette fois, elle donne pas envie. Hein. Alors... Elle propose toutes les.
Moi, je suis à deux doigts de divorcer, là. Je culpabilise d'être mariée.
Je suis une jeune mariée avec mon vieil amant.
Voilà. Vous aussi, vous avez attendu.
Oui, j'ai attendu.
Mais pareil.
Et ça se passe comment?
Très bien.
Ça va?
Est-ce que ça a consolidé? Est-ce qu'il y a eu un plus suite au mariage? Est-ce qu'on sent quelque chose d'autre?
Non, pas du tout. tout, parce pas que, du en tout. Fait, le couple, je pense que... Enfin, tout dépend de ce qu'on met derrière. C'est ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas exposer ma vie.
Mais si, mais j'aimerais bien, moi, j'aimerais bien vous parler de vous. Parce que vous citez des trucs comme ça, j'aimerais savoir.
On n'allait pas venir.
Merci, Florence.
Vous avez dépensé beaucoup d'argent pour le mariage.
Merci, Florence Maillochon. Je rappelle votre livre « De la passion du mariage » aux éditions Presse universitaire de France. Tanguy Basturo, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Qui n'est même pas marié. Révolution dans le monde du maquillage.
Oui, aux États-Unis, figurez-vous que les sœurs Kardashian ont adopté le maquillage vaginal. Oh. C'est comme l'autre, mais plus bas. Tendance validée par la presse féminine là-bas. Il y a même des produits dédiés. Kim Kardashian a même un maquilleur vaginal. Un ancien gynéco qui aimait la peinture. C'est donc officiel, c'est la fin de notre civilisation.
Bon, on essaie d'en parler après les infos de midi.
On va en parler.
C'est la bande originale. Merci d'être fidèle à cette bande originale avec Léa Cadogno.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour.
Albert Albou.
Bonjour.
Tanguy Bassureau.
Bonjour.
Frédéric Sidé.
Bonjour.
Alexis Le Rossignol. Et
salut.
Nos invités.
Bonjour.
Marie-Josée Croze et Barbara Schultz.
Bonjour.
Nous parlons de ce film « À cause des filles » qui sortira le 30 janvier. Mais c'est vrai que depuis que Tanguy Pastureau nous annonçait de quoi il allait parler, nous avons tous l'eau à la bouche. Nous sommes même suspendus à ses lèvres. Absolument savoir ce qui va se passer. Voici Tanguy Pastureau.
Bravo Tanguy.
On est super intrigué. Hein.
Tanguy, vous allez nous parler des vagins.
Oui, et je pense à l'auditeur d'Inter qui se remémore effaré les grandes heures de cette station.
C'est vrai.
Lorsque des gens fins discouraient durant des heures de littérature sous l'œil attentif de l'équipe technique qui se disait « ça, c'est un moment de radio ». Mais l'époque a changé. Et moi, je ne suis là que pour en relater le contenu. Vous croyez que j'aurais pas préféré parler de François Mitterrand plutôt que de Benjamin Griveaux, de Serge Reggiani plutôt que de Booba, des hanches de Mireille Darc plutôt que du cul de Zaya? Tiens, prenons les vagins. Bon, bah, du temps de mes parents, on s'en occupait à peine puisque la vie était aussi dense que la nuque des Gypsy Kings. Les gens se battaient pour leurs idées, il y avait des débats intellectuels. On n'était pas sur du Marlène Schiappa avec son paperboard devant un Cyril Hanouna effondré en train de se dire vivement la pub qui est du contenu. Du coup, on pensait rarement à son vagin ou à son pénis qui restait à leur place dans un slip à poche pour les messieurs, dans une culotte XXL dont aujourd'hui on se servirait en tant que grand voile sur la route du Rhum pour les dames. Ces organes étaient accessoires. À Woodstock, les gens étaient nu, bah ça n'a pas empêché Jimi Hendrix de se vider la dent creuse avec ses cordes de gratte, il s'en fichait. Mais notre époque, sans doute la plus vaine depuis le début, si le Seigneur avait vu ce qu'on deviendrait, en matière de création, il se serait limité au tapir. Et celle de la célébration du corps. Il faut être beau, mince, ferme, ceux qui ne le sont pas sont moqués. Alors on fait de la gonflette, on s'épile, les gens ressemblent à des poulets de louée nourris aux antibiotiques. Mais ça n'était pas assez. Une infime partie de notre corps était encore pour certains en friche, telle la forêt indonésienne avant que le bulldozer abatte le dernier arbre du dernier orang-outan, le vagin. Mais c'est fini, grâce à une nouvelle tendance, le maquillage intime. Alors c'est comme le maquillage normal, sauf que si votre maquilleuse à la télé, Nagui, tente de vous faire ça au lieu de juste vous poudrer la face, vous pouvez la licencier ou lui dire « Ah ouais, sympa ton truc » selon votre humeur du jour. C'est le magazine web Tuxboard qui en parle. Aux États-Unis, les sœurs Kardashian ont adopté le maquillage vaginal. C'est la première étape de la fin du monde. Ensuite, Kanye West se dessinera des papillons autour du pubis. Puis une météorite percutera la Terre. Et enfin, ça sera fini. Kim Kardashian a même un maquilleur vaginal qui lui met des fards pour qu'elle ait l'air plus en forme à ce niveau-là. Sur son CV, parce qu'à un moment, il va bien falloir qu'elle bosse. Elle met deux photos, celle de sa tête et celle de son vagin. Et l'employeur se dit, certes, le CV est incomplet. Elle ne mentionne pas l'état de son rectum. Mais allez, je la prends quand même. Alors Kardashian a même fait un selfie en plein maquillage vaginal. Alors on la voit à quatre pattes avec derrière le maquilleur, concentré avec son pinceau. On a l'impression de voir Van Gogh en 1888 s'il avait réussi à conclure avec la seule dame du coin attirée par les mecs qui n'ont qu'une oreille.
Rassurez-moi, cette... cette tendance se limite à des cérébrés de la télé-réalité.
Mais non, parce que Kardashian est un modèle pour certaines jeunes filles. Chez nous, elle est moins connue que Clémence de la Compagnie Créole, mais aux USA, ça fait 15 ans que les gens la regardent à la télé cuire ses poireaux. Donc tout ce qu'elle fait, la foule fait pareil. Et puis on a tendance à imiter les stars qu'on aime. Moi, quand j'étais petit, j'étais fan de Freddie Mercury du groupe Queen. Bah, j'allais au collège en Marcel avec un début de moustache, et dans la cour, je criais « Scaramouche, Scaramouche !» Et ben, j'étais obligé de changer pas mal de fois de collège, parce que les autres avaient peur de moi. Mais en tant que fan de Freddie, mais quand j'ai appris que j'étais hétérosexuel, ça a gâché ma vie. D'autant qu'à l'époque, les vagins n'étaient pas maquillés. À chaque rapport, on avait l'impression d'être Christophe Colomb. Mais pire que Kardashian, il y a la presse féminine, cette horreur qui pousse les gens toujours plus loin dans la connerie. En Angleterre, le journal Marie Claire a conseillé quand même à ses lectrices de se mettre du persil dans le vagin. Tout tourne autour de ça. En 2019, on n'en a fait que 25 jours, mais on sait déjà que ça va être un grand cru. Alors, pourquoi faire ça, me direz-vous? Parce qu'on a déjà dans le groin d'un porc braisé, esthétiquement, c'est discutable. Eh bien, pour soi-disant avancer la date de leurs règles, les gynécologues ont été obligés d'intervenir pour dire que ça ne marchait pas. En Argentine, une jeune femme est morte après s'être introduit du persil. Alors, je ne sais pas comment elle est morte, je m'y connais très peu en herbes aromatiques. Mais Laurent Mariotte de Petit Plat en Équilibre pourra vous renseigner, donc appelez TF1. Alors, des youtubeuses l'an dernier ont aussi recommandé de se mettre dans le vagin de l'ail. Hein, c'est pratique, on peut tout ranger dedans. Vraiment, je comprends pas les femmes qui installent des placards chez elles alors qu'elles ont un vagin. Non mais ce truc, clairement, c'est la fin d'IKEA. Hein. Alors l'ail, c'était pour soigner des mycoses, mais en fait, ça a provoqué de graves brûlures aux femmes qui ont suivi ce conseil. Et en plus, en cas de rendez-vous avec un vampire, à peine au lit, l'autre se barrait en hurlant. Enfin, grosse tendance également, les paillettes vaginales. Hein. Ça, c'était l'année dernière. Alors, c'est d'autant plus incompréhensible que le disco, c'est fini depuis 30 piges. Hein, apparemment délire par nostalgie, je vois pas qui peut se mettre ça. Et là aussi, les gynécos qui sont désemparés. Hein. Ils sont pas entrés dans la profession pour expliquer au peuple qu'un vagin, c'est pas un live des Bee Gees. On prévenu qu'il y avait de gros risques d'infection. Bref, moi qui n'ai pas de vagin, je réalise d'un coup la légèreté de mon existence. J'ai rien à mettre. Hein. Donc ne croyez ni la presse féminine, ni les Kardashians, ni qui que ce soit. Femme comme homme, on a le droit d'avoir un endroit de notre corps qu'on néglige un peu. Voire tous les endroits, si on veut. Parce que le maquillage vaginal, ça veut dire que dans 10 ans, moi aussi, on me dira de me maquiller le pénis avant une soirée. Et ça, c'est hors de question.
Merci, Tanguy Pastureau. La bande originale,
lundi, sur France Inter. Tanguy Pastureau, qu'on retrouve le 18 mai à Toulon.
Et chez Sephora.
En tête de Mais ceci étant, Barbara Schultz.
Non. Ceci étant, Barbara Schultz, quoi?
Pas à ce moment-là.
Ne dites rien, Barbara.
Dans le film... La scène que vous jouez, le garçon a un pénis tatoué.
Oui.
Donc on est dans la même.
Oui,
le
mais
même
ça existe.
Bien sûr.
Oui.
Des pénis tatoués, ça existe?
Enfin, j'imagine.
Je pas.
Je pense.
Albert, ça existe? Toi qui sais tout.
Mais tout existe.
Bah moi, j'ai la cueillette des olives en Basse-Provence. Et de l'autre, la prise de la smalade Abdelkader.
Voilà. Hommage à Francis Blanche, à Pierre Dac.
Pierre Dac.
Pour ceux qui t'accuseraient de plagiat. Oui, je ne crois pas que ça existe.
T'es douillet aussi.
Il y en a qui aiment bien avoir mal.
C'est sûr.
Ok, d'accord. Bon, on va passer à autre chose.
Je crois.
Ah ouais, ça doit faire mal.
Le problème, c'est que c'est un tatouage évolutif en plus.
Oui, tout à fait.
Il faut prévoir le truc.
On attendait l'information.
C'est un complément d'enquête.
À cause des filles, ce film de Pascal Thomas sur l'amour, les déceptions amoureuses, la manière dont l'amour est forcément pas comme on pas qu'on l'imagine, tout part d'une grande déception puisque le mariage, encore une fois on l'a dit en ouverture de cette émission, ça commence par un mariage, ça finit extrêmement rapidement puisque Frédéric Becbédé quitte la femme avec qui il se marie juste après avoir dit oui. D'ailleurs on découvre qu'il a été un peu l'amant de pas mal de filles. Ouais.
Enfin, avant cette histoire-là, pas pendant.
Bah si, il y en a une, ça faisait à peine une semaine.
Oui, c'est vrai.
Ce qu'elle dit, oui.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Faut que vous voyez le film absolument.
Non, non, mais oui, je sais, je vais le voir, il a l'air vachement bien.
Film choral, oui, parce que énormément de comédiennes et de comédiens, d'ailleurs de tous les horizons possibles et imaginables. On a l'impression que la famille de Pascal Thomas est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer.
Mais il est très aimé, il y a beaucoup de gens qui ont envie de travailler avec lui, et du coup, il prend des gens
voilà, qui viennent de plein de raisons
différentes. Il y a sa fille
qui chante,
fille, qui chante et qui joue aussi.
Ouais, et d'ailleurs,
non, mais je pense à Pierre Richard, ouais. Bernard Ménez,
le chanteur de Fetcherton avec qui je joue la scène d'ailleurs.
Ouais. Alexandra Stewart aussi, qui est formidable en maman du marié justement et qui picole et qui raconte des tonnes de trucs. Donc c'est François Morel aussi, espèce de poète comme ça, mais qui vit des moments de deuil
avec Christian Morin
absolument.
Ah, pas longtemps.
J'adore. En Marie de Bénédicte. Et puis il y a Jean-Édouard aussi, que j'ai cru reconnaître, qui faisait partie des justement, on parlait de télé-réalité.
Qui est le serveur.
Qui est serveur au bar avec la lettre parfumée. Donc c'est vraiment le spectre est très, 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 c'est très, très ouvert. Vous n'avez pas reconnu Jean-Édouard Mais il faut que je vous présente.
C'est celui qui est dans la pistoche avec.
Exactement, avec Louana.
Le dauphin de TF1.
La pistoche,
c'est un bug. Ce film est tourné donc pas avec différentes séquences. L'ordre de l'agencement des séquences est quand même important parce qu'il y a un fil conducteur dans ces sketchs. Vous l'avez déjà vu ou pas d'ailleurs ce film, vous, Marie-Josée, parce que le tourner c'est une chose quand on fait une scène au milieu de plein d'autres scènes, mais et le voir dans sa continuité.
Mais oui, je l'ai vu deux fois.
Et qu'avez-vous ressenti?
J'étais pas surprise, en même temps c'est curieux, j'avais lu le scénario et il avait beaucoup changé, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'il m'avait raconté, Pascal. Donc il a ses films dans la tête, hein. C'est vraiment ses histoires, c'est des choses qu'il porte en lui.
Est-ce qu'on peut proposer encore des choses quand un réalisateur, un auteur comme ça, c'est plus qu'un réalisateur, c'est un auteur, arrive avec un scénario où on a l'impression que tout est écrit et que chaque phrase a son poids?
Alors même, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est très rafraîchissant et pour moi, ça a été une expérience, comment dire, c'est comme si j'étais comédienne pour la première fois presque, parce que il a une manière de travailler qui vous met tout le temps en déséquilibre, et il change le texte,
en déséquilibre ou en danger,
oui aussi, mais c'est bien, il désarçonne, donc il a pas envie que les gens soient dans une zone de confort et refassent ce qu'ils ont toujours fait, et il aime pas ça, il veut que ce soit vivant,
c'est plein d'amusement.
Alors vous avez travaillé avec Spielberg, sa manière de travailler quelle est-elle?
Spielberg, lui, c'est quelqu'un qui est très américain.
Pour Munich.
Ouais, dans Munich. C'est quelqu'un qui est très américain dans le sens où il dit que ce qui est bien. Il encourage beaucoup. Et on finit par comprendre que s'il parle pas d'un aspect de la scène, c'est là où il faut travailler. C'est à cet endroit-là où il faut travailler.
Mais donc, pardon, quand quelqu'un dit uniquement ce qui est bien, c'est pour motiver?
C'est pour motiver.
Ou c'est par politesse de ne pas souligner?
Non, on n'en est pas là, on n'est pas au dîner mondain, on est sur un tournage. Non, c'est une technique.
Mais je pensais que les Américains, au contraire, avaient l'urgence de rectifier ce qui ne va pas.
Ça se fait de cette manière-là, parce qu'il embauche des gens en qui il croit, des gens qu'il trouve intelligents, entre guillemets. Moi, j'ai beaucoup parlé avec lui avant d'être embauché. J'ai passé 3 heures à discuter et j'ai pas fait de casting. On a juste eu une rencontre et il avait confiance en moi, j'avais confiance en lui. Donc, quand on a tourné les scènes, je me souviens, ça m'a frappé parce qu'il m'amenait au combo, il me montrait la scène et il me disait « Oh, that is really good when you do this, when you look there, when you do this ». Il me parlait que des choses positives et donc j'en ai déduit qu'il fallait que je travaille plus sur les aspects dont il parlait pas. Et je refaisais donc ce qu'il me disait qui était bien, j'essayais de le reproduire,
hein,
d'une prise à l'autre. Mais il est très enthousiaste, très généreux, gentil, doux. Alors c'est sa technique à lui de faire croire que, en fait, vous avez l'impression que vous êtes la meilleure actrice du monde au moment où il vous filme.
Ouais, c'est bien.
Et vraiment. Et il m'avait fait un truc qui m'avait vraiment, qui m'avait beaucoup touchée. J'étais dans un trac absolu. J'étais extrêmement fatiguée. Je venais de finir. Enfin, j'avais pas dormi depuis plusieurs heures parce que j'enchaînais avec Ne le dis à personne. Je crois que j'avais dormi 3 heures. Je tremblais de peur. Et j'étais au bar comme ça. Et on me met le micro proche du ici au niveau du plexus, et on m'installe mon micro, on va tourner, donc ils disent moteur, et avant de dire action, il enlève ses headphones comme ça, il se lève comme ça, il dit « Marie-José !» Et là, moi, je fais comme ça, il dit « I hear your heart beating, and I love it !»
J'entends battre ton cœur et j'aime ça.
Ouais, et il se rassoit et il dit « Action !» Et voilà, c'est
ça fait la chair de poule, ça, ouais.
Ouais, et donc moi j'étais là, j'avais envie de tout lui donner, j'étais dans
un lover, le Spielberg.
Ah oui, c'est un lover. Oui, tous les acteurs,
mais les Américains, ils sont comme ça.
Les acteurs tombent amoureux de lui, et ça j'ai vu Tom Hanks en interview parler de Spielberg, il était comme en transe, quoi. Oui, oui.
Oui, c'est important de préciser que c'est, ouais, hein, c'est un rapport qui marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes aussi. C'est pour ça que citer Tom Hanks, c'est important. Dans vos scènes, Barbara, mais comme souvent dans votre jeu, d'ailleurs, il y a cette fraîcheur aussi qui est jouissive pour nous quand on est dans le public.
Naturel.
Et quand on vous voit jouer, c'est extrêmement agréable. Cette fraîcheur-là, on réussit à la garder quand il y a justement plusieurs prises, quand il y a des scènes où il y a 10, 12 autres comédiens, on arrive à rester naturel et instinctive. Enfin, vous réussissez en tout cas dans le film. Ça,
c'est-à-dire qu'avec Pascal, c'est ce que disait Marie-Josée, c'est qu'en fait, il est très drôle, il se balade avec un sac en plastique rempli de feuilles avec des phrases qu'il aime. Et donc, on a un scénario et il me dit « Qu'est-ce que tu penses de cette phrase du prince de ligne ?» Alors je dis vachement bien. Bon tu l'apprends. Tu l'apprends là, on verra.
C'est quoi, c'est un cadavre risqué qu'il
Non, il a des phrases sur l'amour, sur la vie, voilà exactement
et des sentences.
Voilà, des sentences, il nous dit ça te plaît ça? Je dis oui, c'est très beau, apprends-la, on verra. Et bon, alors donc on l'apprend et puis tout d'un coup au milieu d'une scène, il fait "Tiens, c'était quoi la phrase du vas-y, dis-la maintenant." Tu lui dis gna et puis tac tac. Et je dis "Ah OK." Du coup, c'est sans cesse ça avec Pascal.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup des phrases comme ça dans le film. Il y en a une que vous avez en tête qui vous a marqué dans
si vous voulez, là dedans là, ma tête là, c'est un petit peu rangé.
Non,
ce que je veux dire c'est que
j'aurais aimé
l'amour, non, je sais plus, non, on oublie en fait très vite.
Il arrive le matin sur le lieu de tournage et il a des idées qui naissent soit parce qu'on a proposé sans s'en rendre compte quelque chose, et de là il rajoute des choses qui lui viennent. Il peut aller chercher dans un livre, il peut dire regarde, et si tu disais ça avant, vas-y essaie-le, et si ça marche, ça peut être avec un autre comédien à côté, il va dire
d'où la référence à Baudelaire, j'imagine.
Donc il y a un peu d'impro
de Barbara avec son amant tatoué de la tête aux pieds.
C'est très drôle ça.
C'est drôle. Très drôle. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de prises, mais il faut.
Pas tant que ça, non. On s'entend. Mais parce que c'est pas comme avec Spielberg, mais presque. Pascal, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Ouais. Il était très enthousiaste à l'idée de me retrouver. J'étais tellement heureuse de le retrouver. Et du coup, quand on se sent aimé,
mais oui.
Et du coup, c'est facile, quoi. On peut recommencer 42 fois la confiance. Ouais, on peut tout faire, en fait.
Voici le bilan de la semaine avec Frédéric Siris.
Quand on se sent aimé, c'est facile. Voilà.
Tu veux quitter le studio? Alors,
j'ai écouté votre émission avec Philippe Solers hier sur la notion de conversation. Et pour moi, le constat est désormais aussi clair que l'eau, ce liquide que Leïla ne boit pas. Nous, les humains, on est un petit peu comme Booba et Caris, Hanouna et Joe Star, Emmanuel Macron et Alexandre Benalla. On ne peut définitivement plus parler. Enfin, pas vous spécifiquement, Nagui, pour qui une conversation, c'est une anecdote entre Michel Drucker et Jean-Pierre Elkabbach, hein, que vous me racontez dans le détail, et moi qui finis par vous interrompre pour vous dire que je vais rater le dernier RER. Non, je parle des gens normaux. Hein, ces gens qui, s'ils étaient à la tête d'un empire financier tel que le vôtre, n'achèteraient pas des chaussures en peau de Pokémon, mais des trucs moins tapes à l'œil, tels que le PSG, la Tour Eiffel ou les nouvelles dents de Didier Deschamps. Les gens n'arrivent plus à se parler, Nagui. Moi, je vois, il y a encore 2 ou 3 ans. Je pouvais tranquillement monter dans un taxi et entamer une conversation avec le chauffeur qui commençait généralement par « Je prends pas la carte bleue. Uber, c'est vraiment une entreprise de merde. En plus, ils embauchent que des Arabes. Les quais sont fermés. Hidalgo démission. » Eh bien, aujourd'hui, ces chatoyantes interactions humaines qui nous reconnectaient immédiatement avec l'art ancestral de la conversation à la française, la rhétorique, l'esprit des lumières, tout ça, c'est fini. Tu montes dans le taxi, tu donnes ta destination, le chauffeur soupire, te regarde comme si tu venais lui annoncer que t'étais enceinte de lui et que tu voulais garder l'enfant, et c'est tout. Les gens sont tendus, Nagui. Surtout avec nous, les humoristes ou journalistes officiant sur une radio de service public. Il y a quelques semaines de cela, toujours dans cette émission, à cette antenne, hein, je ne sais plus si c'était une émission avec Danny Boone ou une émission avec Danny Boone, et j'ai fait une plaisanterie malheureuse sur le chanteur Jul au milieu d'une chronique qui avait pour thème les chats. Ce qui m'a valu la colère des propriétaires de chats et des fans du chanteur Jul. Hein, 2 communautés que je respecte et même que je comprends. Hein, s'il n'y avait pas tous ces frais de litière, de nourriture et de vétérinaire, je n'aurais déjà un chez moi depuis longtemps. Hein, je parle de Jul. Ma femme ne veut pas de chat. Bon, eh bien, ces réactions m'ont fait me poser des questions. Hein, un peu comme Laurent Delahousse quand il est chez lui et qu'il croit son reflet dans l'eau des toilettes. Je me suis dit, ok Frédéric, tu n'aimes pas ce chanteur, mais au fond, les gens ils ont raison, c'est du mépris de classe. Cet homme ne t'a rien fait de mal. Pourquoi l'attaquer lui, si ce n'est pour avoir un rire facile? Car oui, mea culpa, j'avoue, c'était de l'humour facile. Mais en même temps, mesdames et messieurs, je m'en cache pas le moins du monde. Croyez bien que si du jour au lendemain, sur cette antenne, hein, je devais faire de l'humour dit difficile, j'arrêterais de suite. Non, parce que quand je vois le camarade Tanguy Pascureau écrire 40 chroniques par mois,
des chroniques souvent brillantes, plus celle chez Ardisson. Tout ça pour pouvoir, à la fin du mois, à peine se payer un 35 mètres carrés en plein cœur de Paris. Pour moi, c'est du dumping social. Ah non, mais c'est vrai, moi, ça me dégoûte. Il arrive un moment où le niveau d'humour ne peut et ne doit surtout pas dépasser le montant de nos émoluments. C'est une question de principe. Il en va de l'humour comme des burgers. Quand tu payes un burger 4,50€ dans un fast-food où la seule verdure que tu trouveras dans ton assiette, c'est une tache de moisie sur un pain qui a dépassé sa date de péremption, faut pas t'attendre non plus à avoir le petit plus clientèle. Tu sais, les gens disent, oui, quand même, il faudrait faire mieux. Bah, je vous trouve bien exigeant pour des radins. Hein. Non, ici, à France Inter, c'est pareil. Niveau blague, on fait de la restauration rapide. Sur une cadence de 200 à 300 chroniques à l'année, sur les plus productifs, on est sur de la vanne élevée sur un modèle d'agriculture intensive. France Inter, c'est devenu la ferme des 1000 vannes. Blague de niche pour nos auditeurs de la Confédération Paysanne. On fait ce qu'on peut. Alors, vous allez me dire, oui, mais des proches. Oh, ça va, des proches. Des proches, Coluche ou les inconnus, ils ont jamais été soumis aux cadences d'ouvriers kosovars auxquels on est soumis sur cette antenne. Coluche, il aurait fait un mois dans la peau de Daniel Morin, ça lui aurait fait aussi bizarre que le camion qui s'est pris dans la gueule. Hein. En plus, des proches, ils faisaient pas des vannes à l'ère des réseaux sociaux. Parce que moi, j'aurais bien aimé voir la tête de Pierre Desproges le jour où une de ses chroniques aurait été partagée par Alain Soral sur son site franco-facho. Ah, qu'est-ce qu'il aurait dit là? Bah, on peut rire de tout, mais là, c'est compliqué. Donc évidemment qu'on va à la facilité. Et c'est vrai, c'est tentant. Ariel Dombal. Vianney, Nadine Morano, Eddie Depreto, M. Pokora, Laurent Wauquiez. Alors je sais, on devrait pas tirer sur des ambulances, à moins d'être un chasseur qui pensait tirer sur un sanglier et qui se retrouve à désinguer son collègue à 4 grammes qui hurlait pimpon dans les sous-bois. Alors je sais, amis chasseurs ou fans de Laurent Wauquiez, vous allez me dire, j'attends bien évidemment vos lettres d'insultes, mais n'attendez pas ma réponse parce que je vous l'ai dit, on ne se parle plus assez aujourd'hui. Et finalement, parfois, c'est pas plus mal.
Touche pas Vianney.
Merci Félix Iris.
Ne touche pas. C'était mon prévisible. Je le savais. En écrivant, je dis rien. Oh, c'est mon copain.
Ne touche pas, Vianney.
Je t'attendais même sur Didier Deschamps aussi.
C'est aussi, oui, mais là, c'était trop loin. J'allais pas le faire maintenant. Et tu sais, bon, parlons de l'avenir. L'avenir immédiat. Ce film sort mercredi et on sort le 30 janvier à cause des filles Pascal Thomas à la réalisation et à l'écriture. Et dans un avenir plus lointain, il y a un téléfilm Barbara Schultz que vous avez tourné qui s'appelle Mauvaise Mère. Je ne sais pas quand ça sera diffusé.
On ne sait jamais, c'est bien ça le problème.
D'accord. Voilà. Ça sera sur France 3 en tout cas.
France 2.
Ah, France 2, ouais. Pardon.
Ouais.
C'est une histoire vraie ?
Oui, c'est tiré d'une histoire vraie, oui. J'ai découvert que l'adoption se passe parfois très très mal, ouais, voilà. Et c'est avec Thierry Godard, on a fait ça.
Donc c'est une mère adoptive qui est rejetée par sa fille, si j'ai compris le pitch.
Une enfant qu'on a adoptée à la naissance et qui, à l'adolescence, fait une crise d'identité très 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 forte. Et apparemment, c'est assez courant.
Vous tournez également dans des petits meurtres d'Agatha Christie.
Oui, j'ai une présentatrice du journal télévisé dans les années 50. Un peu vamp et c'est très amusant.
Et d'autres projets dont on peut parler ou pas?
Non, on peut pas.
Voilà. Okay, Ben, on peut en parler ou pas?
Ah bah on ne peut plus. Enfin, on peut toujours, mais c'est fini.
Il n'y aura pas un autre projet encore
Non, c'était qu'une saison. Ouais. Il n'y en aura pas deux.
Marie-Josée Kroos, vous allez tourner dans une coproduction française-allemande, un thriller sur fond d'espionnage.
Exactement.
Mais on n'en sait pas plus.
Ça s'appelle Mirage et c'est réalisé par Louis Choquette, qui a fait Philharmonia et Versailles, qui est un réalisateur québécois qui est très talentueux.
Et donc c'est pour France Télé.
Et c'est pour France 2, oui.
D'accord.
Ouais.
En attendant, donc, au cinéma, c'est ce mercredi, à cause des filles, le film de Pascal Thomas. Des excuses et à présenter, j'imagine.
Bien sûr, désolé pour Marie-Josée Kroos, dont le temps de parole a été honteusement réduit à néant par la volubile, la bavarde, l'égoïste Barbara Schultz. En même temps, c'est une volonté de Nagui qui nous a confié préférer Barbara. Désolé pour Barbara Schultz qui m'a confié à la pause avoir trouvé Marie-Josée Kroos un peu trop volubile, bavarde et égoïste, hein. C'est clair, comme dit Nagui, je l'aime pas, c'est pas se tenir la canadienne, oh là là, on entend qu'elle. Désolé, enfin pour tout le monde, autour de la table, une fois encore, personne n'a pu vraiment s'exprimer, une fois encore, Nagui a jacté non-stop pendant toute l'émission, c'est clair, on ira un Canadien.
Je prends ça comme un compliment. Merci mille fois, Barbara Schultz. Merci mille fois, Marie-Josée Kroos.
Merci, Nagui.
À suivre, Nicolas Stoufflet pour un jeu des 1000 euros spécial festival de bande dessinée d'Angoulême en direct du studio 621 de France Inter. Et puis nous, on se retrouve lundi avec Michel Larocque et François Berléand. Et ce dimanche,
Ariel Dombal. Tu es la ministre Roxana Maracineanu.
Wow, classe. Bon week-end et bon jeudi. 1 000 euros dans quelques minutes.